RFI, 8h44 à Paris, 6h44 en temps universel. Dans quelques minutes, l'invité Afrique, Jean-Pierre Auger, ancien officier français au Tchad, en Côte d'Ivoire, au Niger, qui a travaillé pour les renseignements français. Christophe Boisbouvier lui a demandé si ces renseignements perdaient en efficacité en Afrique. Et puis à suivre dans une quinzaine de minutes, un nouveau journal d'actualité internationale. Et pour l'heure, on retrouve Catherine Potet pour la revue de presse africaine. Bonjour Catherine.
Bonjour Marion, bonjour à toutes et à tous.
À la une, un nouveau drame de l'immigration.
Pour le moment, seule l'agence mauritanienne d'information se fait l'écho de ce naufrage survenu au large de la Mauritanie et dont le bilan provisoire est déjà très lourd, 89 morts. Les victimes se trouvaient à bord d'une grande embarcation de pêche traditionnelle qui a chaviré au large de l'Atlantique, à 4 km de la ville de Ndiago, explique l'agence mauritanienne d'information. 9 personnes, dont une fillette de 5 ans, ont été secourues par les gardes-côtes mauritaniens, alors que selon les survivants, l'embarcation qui avait quitté la frontière sénégalo-gambienne il y a 6 jours en direction de l'Europe, avait à son bord 170 migrants clandestins. Les disparus se comptent donc par dizaines.
À la une, également 2 sommets à un jour d'intervalle.
Sommet de la CEDEAO dimanche à Abuja et sommet de l'AES, la nouvelle Alliance des États du Sahel, demain à Niamey. S'agit-il d'un hasard du calendrier ou d'un rendez-vous minutieusement programmé, s'interroge Wakat Serra. En une du site d'information burkinabé, les photos des 3 hommes forts de l'AES, le capitaine Ibrahim Traoré pour le Burkina, le général Abderrahmane Tchiani pour le Niger et le colonel Assimi Goïta pour le Mali. C'est la première fois qu'ils se réunissent tous les 3 depuis leur arrivée au pouvoir lors de coups d'État survenus entre 2020 et 2023. À cette occasion, nous dit Wakat Serra, le président de la transition nigérienne, le général Abderrahmane Tchiani, a invité ses concitoyens à sortir massivement ce vendredi après la prière pour réserver un accueil chaleureux aux délégations burkinabées et malienne. Demain, poursuit Wakat Serra, les 3 chefs d'État se retrouveront pour plancher sur le présent et l'avenir de l'Alliance des États du Sahel, née après que les 3 pays ont quitté la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest.
En République démocratique du Congo, la condamnation à mort de 25 soldats.
Condamnés à mort pour vol et désertion contre le M23 mardi, raconte Africa News. 27 soldats qui avaient abandonné leur position dans les villages de Kessegué et Matembe ont été trouvés en train de voler des marchandises dans le village voisin. Ils ont été arrêtés par l'armée en même temps que 4 de leurs épouses qui cachaient les objets volés. Le lendemain, un tribunal militaire était mis en place pour les juger. 25 d'entre eux ont donc été condamnés à la peine de mort pour vol, fuite de l'ennemi et violation des ordres. En souffrance, commente Africa News, l'armée congolaise est devenue dysfonctionnelle au fil de la crise qui s'enlise et des divisions qui sont apparues en interne. Le manque de logistique et de ressources affecte le bon fonctionnement du contingent, nous dit Africa News.
La presse africaine s'intéresse également, Catherine, aux élections législatives en France.
Droit du sol, grand remplacement, migration, l'Afrique est au cœur des législatives françaises, titre aujourd'hui. Le grand remplacement, cette rhétorique de l'Africain qui va faire disparaître le français pur jus par le phénomène de la phagocytose est le thème de prédilection du Rassemblement national, lequel évidemment pousse le nouveau Front populaire et Ensemble à répliquer. Du coup, le continent se retrouve grand électeur de ces législatives en France, estime le site d'information burkinabé qui poursuit. C'est un thème pourtant éculé, galvaudé, qu'on repasse pour ameuter un électorat d'extrême droite, lequel dit souvent tout haut ce que de nombreux Français pensent tout bas. Près de 5 décennies après la fameuse phrase de Michel Rocard, « La France ne peut héberger toute la misère du monde. L'Africain reste peu ou prou un repoussoir. Cachez-moi ce nègre que je ne saurais tolérer. » L'Afrique omniprésente dans la politique française et dans les présentes législatives, conclut aujourd'hui.
La revue de presse africaine, signée Catherine Potet.
RFI, toute l'actualité, Marion Cazanov.
L'actualité ce vendredi 5 juillet, c'est cette victoire historique des travaillistes au Royaume-Uni lors des législatives. Ils reviennent au pouvoir après 14 ans de règne conservateur. Keir Starmer, futur Premier ministre, promet un renouveau national. Autre législative, cette fois en France, dernier jour de campagne avant le scrutin, dimanche, où le Rassemblement national, le parti d'extrême droite, espère obtenir une majorité absolue. Jour de vote en Iran, second tour de la présidentielle, le premier tour avait été marqué par une forte abstention. Un réformateur et un ultra-conservateur s'affrontent pour succéder à Ebrahim Raisi, le président mort dans un accident d'hélicoptère en mai dernier. En RDC, 25 militaires condamnés à mort. Ils sont accusés d'avoir fui les combats entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise, accusés aussi pour certains de pillage. Aux États-Unis, le président Joe Biden balaie à nouveau toute idée de retrait. « Je n'ai pas l'intention de m'en aller », dit-il. Il suscite l'inquiétude de son camp depuis son débat raté la semaine dernière face à Trump. Aujourd'hui, il doit donner une interview qui paraît cruciale pour son maintien. Et puis en football, le début des quarts de finale de l'Euro en Allemagne. Le pays hôte affronte tout à l'heure l'Espagne, suivi de Portugal-France. Les deux derniers quarts, ce sera demain, Angleterre-Suisse et Pays-Bas-Turquie. 6h50 en temps universel. La série de putsch au Sahel a pris les autorités françaises de court au point que de se questionner sur l'efficacité des services de renseignement français sur le continent. Pour certains, c'est d'ailleurs après le coup d'État au Niger que le président Emmanuel Macron a décidé de limoger le patron de la DGSE. Témoignage aujourd'hui d'un ancien officier français. Il a été en poste au Niger, au Tchad et en Côte d'Ivoire pour les renseignements. Jean-Pierre Auger vient de publier « Africa Dieu » aux éditions Mareuil. Il répond à Christophe Boisbouvier.
Jean-Pierre Auger, bonjour.
Bonjour.
Dans votre livre, vous racontez que vous avez été d'abord en poste au Niger comme officier de liaison. C'était dans les années 90. Or, il se trouve que c'est sans doute le Niger qui a fait tomber Bernard Aimier, le patron de la DGSE, à la fin de l'année dernière. Il semble en effet que le président français, Emmanuel Macron, lui ait reproché de ne pas avoir vu venir le putsch militaire du 26 juillet dernier à Niamey. Est-ce que ce reproche vous paraît justifié ?
Écoutez, ce que je sais, c'est que il est très difficile de déterminer le jour d'un putsch. Les complots, les Africains qui se livrent à ce genre d'exercice, généralement s'y prennent au dernier moment, ce qui explique que nombre de complots échouent, parce que c'est toujours dans la précipitation. C'est pour ça que ça me paraît pas très justifié de dire ils ont pas prévu le complot. Quand quelque chose ne va pas, faut bien trouver un coupable.
Alors vous êtes d'abord en poste au Niger, puis au Tchad, toujours dans les années 90. Et donc, Idriss Déby est au pouvoir depuis 6 ans. Il organise une élection présidentielle, sa première. Son directeur de cabinet, Timan Erdimi, vous informe, sous le sceau de la confidence, qu'il a gagné dès le premier tour. Et à ce moment-là, vous appelez Paris. Qu'est-ce qui se passe ?
Oui, mon travail est d'informer aussitôt de la victoire du président. Donc, je le fais. Et Paris, on m'invite à voir le président et à lui dire que cette victoire de 60% risque de ne pas être très appréciée par toute la communauté internationale et notamment nos amis américains. Parce qu'il faut replacer cet événement. Les Américains ont soutenu Abré jusqu'au bout. Donc 6 ans après, les Américains notamment avaient quand même des raisons de douter de l'exactitude du résultat. Donc Paris propose un deuxième tour. Pourquoi ? Parce que l'élection de Déby, elle était inéluctable. En fait, c'était une façon de la présenter mieux, de dire il a accepté un deuxième tour.
Donc vous appelez Paris et Paris vous demande d'aller voir le président Déby et de lui dire quoi ?
Il fallait trouver les mots. Hein. Déby n'est pas homme à se plier à vos caprices ou aux injonctions. Donc il m'a fallu trouver les mots et les mots, ils étaient simples. Autant être relativement bien vu par le maximum de pays. Donc pourquoi pas ? Et après quelques secondes, longues secondes de réflexion,
et de silence,
Idriss Déby a convenu de l'intérêt de cette formule.
Et du coup, il organise un deuxième tour, qu'il emporte officiellement face à Abdelkader Kamougué. Mais quelques années plus tard, plusieurs hauts magistrats tchadiens reconnaissent que les résultats d'alors avaient été trafiqués. À votre avis, quels ont été les vrais résultats de cette présidentielle ?
J'en ai aucune idée. Ce qui peut paraître surprenant, effectivement, c'est que le Sud ne lui était pas acquis. Et le Sud est quand même important au point de vue démographie. Si on s'en tient qu'aux seuls Agawa, déjà divisés entre eux, mais bon, c'est comme ça. l'Afrique a un lien avec la force. Moi, ce que je reconnais à Déby, c'est 30 ans de paix dans son pays, ce qui est quand même un beau résultat.
Alors, autre pays africain où vous avez été en poste, la Côte d'Ivoire. Un putsch y surprend la France, c'est celui de décembre 99 contre le président Bédier. À l'époque, vous êtes justement chargé de mission à la présidence ivoirienne. Est-ce que vous avez vu venir quelque chose ?
Alors, je n'ai pas vu venir le putsch. D'ailleurs, même le putschiste était un peu un putschiste malgré lui, le général Gueye. On est venu le chercher. En revanche, j'ai senti que le régime Bédier était quand même pas très solide, on va dire ça comme ça. Et j'ai envoyé des choses qui devaient peut-être un peu surprendre. Et je me suis rendu compte assez vite donc que ce président Bédier, c'était pas au fouet de Boigny. Voilà. Alors, a-t-on tenu compte de mes, je le pense, de mes mots, mais de là à dire que quelques soldats se mutineraient un jour pour être mieux payés et entraîneraient avec eux la chute de Bédier, moi-même, j'ai appelé son directeur de cabinet pour lui dire d'être dur, répressif, surtout ne pas laisser cette mutinerie se développer, parce que c'est jamais très bon. Il ne l'a pas fait, et le lendemain, il était par terre. Mais je vous dis, ces putsch et complots partent de pas grand-chose parfois, hein. Une étincelle, un mécontentement, et c'est parti. Hein.
Certains y ont vu la main d'Alassane Ouattara ?
Non, je me trompe peut-être, mais je ne le crois pas du tout, parce qu'Alassane Ouattara est trop intelligent pour confier à quelques zèbres le soin de... Il serait tombé sur un président qui avait une poigne, un petit peu de poigne, ça ne serait pas allé bien loin.
Jean-Pierre Auger, merci.
Jean-Pierre Auger, ancien officier français, avec Christophe Boisbouvier. Dans quelques minutes, un nouveau journal d'actualité internationale. On retrouve d'abord la parlotte de Charlotte aujourd'hui. Votre thème, Charlotte, ce sont ces tensions pendant les courses entre monsieur et madame.
Et oui, avez-vous remarqué que lorsque madame fait ses courses, juste à côté, monsieur tire la tronche. Lorsque je parle de monsieur qui accompagne madame, je parle de ce monsieur avec sa vraie dame et non pas le monsieur enthousiaste qui, au centre commercial, dépense sans compter avec cette dame qui n'est pas sa dame ou dont il espère faire sa dame. Ni de cette dame contente de faire du shopping avec ce monsieur qui est le monsieur d'une autre dame. Si madame aime bien que monsieur l'accompagne pour l'aider dans ses choix, très souvent monsieur est là parce qu'il n'a pas le choix. Que je t'accompagne, fais tes achats. Hein. J'ai dit, hein, on va durer là-bas. Pendant que madame défile entre les rayons, s'arrêtant sur chaque article, monsieur, en poussant le caddie, n'arrête pas de regarder sa montre. Et lorsque madame lui demande son avis, si elle pouvait lire dans ses pensées, elle entendrait « Ouais, la femme s'y me paie même le temps, pourquoi ? Que, oh, mon lait de beauté est fini. On a fini depuis au rayon cosmétique. On fait quoi maintenant au rayon décoration ? Hein ? Parce qu'elle voit qu'il n'est pas content d'être là. Madame est parfois obligée de le virer de ses achats. Pardon, va m'attendre dans la voiture. Ou même au bar d'en face. Faut pas me stresser. Je te fais signe quand j'ai fini. » Le jour où monsieur a la bonne mauvaise idée d'aller faire des courses pour madame sans madame, le voilà qui ramène un article que même s'il la voit jubiler de joie, elle est contente de l'intention, mais pas de cet article qu'elle ne portera jamais pour rien au monde. Mais chérie, comment tu n'as jamais porté la robe que je t'avais achetée l'année surpassée là ? La robe là, mon amour, tu sais que je ne peux pas porter ton cadeau n'importe comment. J'attends une occasion spéciale. Tu m'étonnes que lorsque madame n'a pas le temps de faire ses courses et qu'elle lui dit « Chérie, tu rentres bientôt. Tu peux t'arrêter au supermarché pour m'acheter quelque chose. » Elle est souvent obligée de rajouter avant qu'il ne raccroche « Chérie, pardon, quand tu es devant le rayon, fais-moi la vidéo pour que je voie avant que tu n'achètes. » Si monsieur se dirige, lui, directement vers l'article, puis fonce vers la caisse comme s'il fuyait quelque chose, madame n'achète jamais sans lire la composition, le mode d'emploi, la date de péremption, le taux de cholestérol, le nom du fabricant. Madame a besoin, monsieur, de faire le tour des magasins, quitte à revenir au premier magasin visité avant d'effectuer un achat. Soyons clairs, messieurs, ce n'est pas parce que ça s'appelle faire des courses que nous allons faire nos courses au pas de course, hein. Bonnes vacances et à la rentrée.
Bonnes vacances, Charlotte Ntama. RFI Matin, ça continue dans quelques secondes avec un nouveau journal.
Ce samedi sur RFI, Écho d'ici, Écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Bientôt les JO, mais que peut en espérer l'Afrique d'un point de vue économique ? Nous recevons plusieurs personnalités du sport business, investisseurs, chefs d'entreprise, patrons de chaînes de télévision et des athlètes, dont le triple sauteur burkinabé Fabrice Zango, docteur en génie électrique, il vise l'or à Paris.
Écho d'ici, écho d'ailleurs,
avec la BOAD,
tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.
Témoin d'actu, le podcast d'info de RFI.
Les Américains seront appelés aux urnes le 5 novembre prochain pour départager Joe Biden et Donald Trump dans la course à la Maison-Blanche. Abla Junaidi, qui se trouvait récemment au Nevada et en Arizona, nous parle du peu d'engouement des électeurs pour cette revanche Biden-Trump.
Témoin d'actu avec Alexandra Cagnard, tous les samedis à 19h41 sur RFI et en podcast sur RFI.fr.
La marche du monde. Valérie Nivelon.
Album de famille ou photographie de studio, les Togolais se racontent dans l'exposition Portraits de Lomé, les dimanches en famille à la plage, les chansons de Bella Bello, les matchs de l'étoile filante et bien sûr, les nanabins historiques. Poussez les portes du palais et découvrez la ville de Lomé.
La marche du monde. Valérie Nivelon.
À dimanche sur RFI, 15h10, temps universel.
Vivez le second tour des élections législatives françaises sur RFI.
Situation inédite en France, l'extrême droite est arrivée en tête du premier tour des élections législatives anticipées. Quelle sera la couleur de la prochaine Assemblée nationale ? Ce dimanche, dès 19h45, heure de Paris, découvrez les résultats, nos analyses et les premières réactions en France, mais aussi à l'international, dans nos éditions spéciales à la radio et en numérique. Les élections législatives françaises, c'est à suivre ce dimanche sur RFI et RFI.fr.